le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et ce midi, dans notre magazine citoyen, nous allons parler santé mentale. Nous recevons pour l'occasion le docteur Karine Anselme, qui est psychiatre au CHS, la neuropsychologue Mélodie Appleton. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également des membres de l'association Hippocampe, Hélène Goujon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et Estelle, qui est personne ressource. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est votre rôle.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Avant de commencer, peut-être essayer de resituer ce qu'est la santé mentale. On en parle peut-être un petit peu plus qu'il y a quelques années, mais la santé mentale, si on doit donner une définition, c'est quoi concrètement ?
La santé mentale, ce n'est pas un trouble psychiatrique. Hein. C'est, y a une définition qui est une définition complète. Hein. C'est un état de bien-être dans lequel un individu peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, avoir une activité productive et contribuer à la vie de sa communauté. Donc c'est assez riche hein, comme définition. C'est donc un équilibre dynamique entre pensée, émotion, comportement et vie sociable. Équilibre qui varie selon les événements de vie, le contexte ou les ressources personnelles. Et voilà, donc c'est parvenir à trouver un équilibre dans les différents domaines de sa vie, en dépit des moments difficiles ou des événements imprévus. Donc nous, les professionnels de la santé mentale, hein, on ne dit plus trop la psychiatrie maintenant, hein, la tendance c'est dire la santé mentale, on peut prendre en compte hein, toutes ces dimensions, tout ce qui concourt à cet équilibre qui est la santé mentale. C'est la définition de l'OMS. Hein,
donc finalement, on peut prendre soin de sa santé mentale.
Voilà, bien sûr, tout à fait. Et c'est recommandé, puisque c'est le soin et la prévention aussi. Et en psychiatrie, hein, puisque quand même la psychiatrie publique, hein, on parle encore de services de psychiatrie, mais on invite pas que des malades hein, psychiatriques à consulter, on invite des gens qui ne sont pas malades, mais qui traversent une crise existentielle, qui ont des difficultés d'adaptation, notamment les crises suicidaires, c'est quand même très important hein, d'amener. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on consulte un psychiatre ou un psychologue, encore moins qu'on a une maladie mentale ou même un trouble psychiatrique. On peut avoir juste des problèmes et une difficulté d'adaptation et avoir besoin de soins à un moment donné.
Donc là, on est dans une semaine qui est consacrée à la santé mentale, où c'est l'occasion de faire un petit peu de sensibilisation. C'est également, il y avait une conférence hier à l'UNC qui était l'événement coup de cœur de la fête de la science. Est-ce que ça aussi, ce sont des coups de projecteur qui sont importants pour pouvoir parler de cette santé mentale, pour peut-être redonner aussi le cadre et cette définition et faire comprendre et faire passer des messages?
Tout à fait. C'était une belle réussite, hein, cette soirée d'hier, hein, animée par Mélodie Appleton, qui est neuropsychologue au CHS, par Delphine Sœur, qui est une infirmière en réhabilitation psychosociale. Le public était au rendez-vous. C'est vraiment des temps forts. Il y a beaucoup d'animation cette semaine. Il y a eu un fort investissement des professionnels. Merci au CHS, merci aux organisateurs, merci à... Donc, Mélodie, tu fais partie vraiment des gens qui ont insufflé cette belle énergie. Tous les partenaires, tu vas un petit peu donner le programme.
Oui. Il y a notamment un village de la santé mentale, il me semble, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, pour revenir sur l'événement d'hier, c'est en effet, c'était un petit peu un exercice d'équilibriste parce qu'il y avait la fête de la science, donc on se devait d'avoir un discours qui était qui rentrait dans la démarche scientifique avec quelque chose d'assez académique. On voulait quand même montrer que notre travail était sérieux et que nos prises en charge s'appuyaient sur des recherches qui étaient valables scientifiquement. Mais on avait aussi donc cette semaine d'information de la santé mentale et on se devait aussi de vulgariser les choses. Notre objectif, quand même premier en tant que professionnel de santé, avec ma collègue Delphine, était de déstigmatiser le soin en psychiatrie et la maladie en psychiatrie. On souhaitait un petit peu apporter de la lumière sur ce qui se fait, comme on dit, de l'autre côté, sur cette presqu'île derrière ces murs du bagne, et de montrer qu'on soignait d'une façon qui peut-être parfois pouvait être insoupçonnée par le grand public du fait d'un domaine de la médecine qui porte certains stigmates, et surtout en Nouvelle-Calédonie qui quand même renvoie à l'isolement sur une presqu'île de personnes qui sont malades. Et maintenant, on souhaitait un peu montrer comment on soigne et que finalement, ce sont des idées qui sont bien loin de la réalité. Donc on espère que ça a fonctionné et qu'on a apporté des informations sur ce qu'on fait. Donc c'était un peu la première journée pour cette semaine d'information de la santé mentale qui commençait un peu fortement avec cette conférence de 2 heures. Aujourd'hui, il y a un village de la santé mentale à l'université au niveau de l'esplanade avec plusieurs stands qui sont tenus par nos collègues. On a un stand sur les métiers, sur les différents numéros à appeler quand on a besoin, quand on se pose des questions sur sa santé mentale qui éventuellement devient fragile ou si on passe des périodes difficiles et qu'on a des questionnements sur soi. On a aussi une collègue qui est un peu... au CHS, elle travaille à la médecine du travail, elle propose du yoga sur chaise, de l'écoute avec un logiciel qui s'appelle Music Care, qui fait de la musicothérapie. Donc un espace un petit peu de bien-être, elle l'a appelé ça. Et il y en a d'autres que je n'ai plus en tête, mais c'est toute la journée à l'université, ouvert au grand public.
Alors évidemment, quand on parle de santé mentale, on pense aux professionnels en premier lieu. Il y a aussi les associations. Cette association Hippocampe, elle sert à quoi? Quel est son rôle finalement?
Alors, l'association Hippocampe, on est à sa 10e année, on entame la 11e, d'existence. Puisqu'elle elle a vu le jour en 2015. Et ce qu'elle propose, c'est justement d'aider les personnes en situation de fragilité. Alors, souvent, c'est des personnes avec des profils psychotiques, comme la schizophrénie, la bipolarité, mais aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiques, comme la dépression. Et notre axe, c'est au niveau des personnes dans ces situations-là, c'est de pallier l'isolement qu'elles vivent au quotidien. On a donc une villa qu'on loue à Coutio, où chaque jour, on propose une activité, un regroupement. Bon, par exemple, le lundi matin, il y a un atelier cuisine qui permet de manger ensemble. On est une quinzaine à table tous les lundis matins. Lundi après-midi, on a créé un groupe de musique où donc ceux qui ont l'âme musicienne, il y aura peut-être d'ailleurs bientôt un album d'enregistrer. Et le mardi et le jeudi matin, c'est le groupe d'entraide mutuelle qui se réunit en autonomie. C'est-à-dire que nous, les personnes proches qui sont dites aidantes en santé mentale, nous n'intervenons pas. Les personnes sont là pour ensemble parler de leurs problématiques à elles, de monter leurs projets en autonomie. Et de temps en temps, une fois tous les 15 jours à peu près, il y a une personne qui vient animer des jeux de société auprès d'eux. Et il y a aussi un autre temps dans la semaine d'entraînement à la musique, parce que bon, il y a une grosse actualité en ce moment. Et puis on finit la semaine plus en douceur avec cours de yoga le vendredi matin. Donc toutes ces activités du lundi au vendredi permettent aux personnes d'avoir un but pour sortir de chez elles, de rencontrer des gens, d'être dans la bienveillance, pas de jugement, on peut dire vraiment que voilà, il y a une ambiance sereine qui s'y développe, et la personne fait toutes les activités qu'elle souhaite. Il n'y a aucune obligation. Et on est dans la confiance. Et je vois que les années passant, les personnes en ressentent de grands bénéfices.
Alors, qu'est-ce qu'une personne ressource à l'association Hippocampe? Quel est votre rôle finalement en tant que personne ressource?
Ben, je serais mal placée pour expliquer exactement le terme personne ressource. Mais ce que moi, je peux... On peut dire, c'est que voilà, je souffre de schizophrénie affective timorégulée depuis 2011, ça a été la première fois où j'ai été diagnostiquée. Et depuis 2020, je suis stabilisée par, on va dire, un bon traitement. Parce qu'il y en a eu auparavant, mais soit je ne le prenais pas correctement à cause des effets secondaires, ou peut-être il ne le convenait pas. Mais là, ça fait 5 ans que j'ai un traitement qui me stabilise et que depuis aussi, j'ai intégré l'association Hippocampe, où je me suis retrouvée et il y a eu, ça m'a permis de répondre à beaucoup de mes questionnements. J'ai retrouvé des personnes qui ne me ressemblent pas totalement, mais dans la maladie un peu. Du coup, ça m'a permis de me retrouver et d'avoir une base sur quoi se fixer. Et aussi, je retiens à remercier énormément ma famille qui m'a beaucoup soutenue aussi. Et une personne ressource, finalement, je ne peux pas l'expliquer vraiment, mais je viens de dire que c'est une personne qui vit la maladie tous les jours parce qu'elle est en moi. Et qu'elle ne m'empêche pas de vivre, mais voilà, je peux facilement témoigner parce que par expérience, je l'ai vécu et je sais de quoi je parle. Parce que maintenant, je n'ai pas peur d'expliquer ouvertement au public la maladie, la schizophrénie que je vis.
Ça a été dur, ça, au départ, quand on est diagnostiqué, de l'accepter, d'en parler ?
Effectivement, parce que la première fois, quand j'ai vu ce qui m'arrivait, parce que c'était l'hospitalisation directe pour une dépression sévère, ben je me suis dit, mais je me suis sentie différente de tout le monde. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes aussi qui souffraient de schizophrénie. Du coup, ça a tout remis en question, ma confiance en moi, mon assurance. Voilà, je me posais énormément de questions. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal à l'accepter. Enfin, au fil du temps, j'ai réussi, mais au départ, je ne comprenais pas.
Et aujourd'hui, quelques années après, vous êtes sur un plateau de radio pour venir témoigner.
Voilà. Et
c'est un grand chemin, finalement, qui a été fait, un grand pas.
Effectivement, c'est un grand chemin. Ma famille, enfin, mes amis que je n'ai pas perdus, parce qu'il y en a qui, depuis la maladie, m'ont mis de côté. Et moi, je ne les en veux pas. Et voilà, j'avance malgré tout. Et c'est vrai qu'avec beaucoup d'expérience, de temps, d'amélioration, ben je suis capable d'en témoigner et trouver les mots juste pour pouvoir exprimer ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, ce que ça me fait.
Alors, on l'a bien compris, dans la santé mentale, il y a beaucoup de choses. Tout le monde est concerné, finalement, par la santé mentale. Le cas de la schizophrénie, on en parle souvent en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on a des chiffres, d'ailleurs, du nombre de patients qui pourraient être atteints, du nombre de personnes suivies sur ces maladies spécifiques ?
Touche 1% de la population, tous sexes confondus, et partout dans le monde. Donc en Nouvelle-Calédonie.
Donc c'est pas quelque chose de rare.
Non, et les troubles. Alors il y a les troubles schizoaffectifs, hein, dont parlait Estelle. Il y a la bipolarité. La bipolarité, c'est 2,5%, je crois. Partout dans le monde, en fait. Hein. Il y a des facteurs de vulnérabilité pour toutes ce qu'on appelle les maladies hein, psychiatriques et aussi les troubles de la personnalité, c'est un petit peu moins bien identifié, mais il y a des facteurs de vulnérabilité génétique, mais par-dessus des facteurs environnementaux. Mais c'est vrai que pour la schizophrénie, pour la bipolarité, surtout pour la schizophrénie, hein, les chiffres sont assez constants. Ça peut être étonnant, hein, puisque les facteurs environnementaux sont différents, mais partout dans le monde. Alors, il y a des différences entre milieu rural, milieu urbain. Donc, on peut imaginer le stress, le stress social. Alors, j'en profite, je parle de stress social. Là, la semaine d'information sur la santé mentale, le thème, c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social hein, cette année. Donc, le stress social, ça peut être la stigmatisation. Hier, Mélodie, moi, j'ai été très intéressée dans la description que vous avez faite de l'autostigmatisation aussi, qui est un concept quand même très intéressant qu'il faut connaître. Si tu peux un petit peu expliquer, reprendre ce thème.
La stigmatisation et l'autostigmatisation, c'est un sujet qu'on aborde à chaque semaine d'information de la santé mentale parce que on va dire que dans chaque difficulté qu'une personne a en santé mentale, il va y avoir plein de symptômes qui sont gênants, qui sont souvent des symptômes qu'on appelle subjectifs parce que ça ne se voit pas. Ce sont des pensées désagréables, des ruminations, parfois des idées qui sont délirantes. En tout cas, ça ne se voit pas. Parfois, on parle de handicap, de handicap invisible pour les personnes qui ont des troubles de la santé mentale. Et en fait, on se rend compte que ces symptômes-là vont être aggravés par la stigmatisation et l'auto-stigmatisation que la personne va induire chez elle. La stigmatisation part du... on appelle ça, en psychologie, on apprend le terme de prophétie autoréalisatrice. On part du principe que dans la société est véhiculée une image de la personne qui a des problèmes de santé mentale. Et la personne, avant qu'elle tombe malade, va être exposée à ces idées-là qu'on a. Et à partir du moment où elle va tomber malade et qu'elle va développer ses troubles et ses symptômes, eh bien, elle va un peu faire sienne ces idées-là. Elle va se dire, en fait, les croyances négatives qu'il y a dans la société sur les personnes atteintes de maladies, en fait, finalement, elles me concernent moi. Elle va croire que ces croyances-là sont vraies, elle va se les attribuer, et au bout d'un moment, on tombe dans l'auto-stigmatisation, c'est-à-dire que non seulement la personne internalise ses croyances, mais en plus, au bout d'un moment, elle va en avoir honte. Elle va se dire, oui, c'est vrai, finalement, je suis peut-être plus faible que les autres, je suis peut-être plus fragile et sensible à mes émotions, ou moi, je ne sais pas faire face comme les autres. Et toutes ces croyances-là, elle va finir par en avoir honte. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait ensuite un cercle vicieux, parce que
c'est comme un état modifié de conscience, finalement, où on vient induire quelque chose ?
Alors, c'est pas tant un état modifié de conscience que... parce qu'un état modifié de conscience, ça s'induit, par exemple, en hypnose. Au contraire, c'est plutôt une vision un petit peu biaisée d'elle-même. Mmh. C'est une vision qui va être déterminée, ce qu'on appelle un peu comme un déterminisme social. Mmh. C'est une vision qui va être déterminée par des croyances qui la précèdent. Ces croyances-là, elles nous précèdent tous, elles existent depuis très longtemps dans notre société. Et donc forcément, quand on est touché par une maladie mentale, on va se dire, en fait, tout ce qui est dit sur les malades mentaux, finalement, c'est moi. Et au bout d'un moment, cette honte va provoquer un repli chez la personne, et souvent les personnes sont dans une phase où elles vont avoir peur de demander de l'aide parce que c'est honteux, parce que ça veut dire que d'un seul coup il va falloir tout mettre sur la table quand on parle à un professionnel. C'est une démarche qui demande énormément de courage, et quand on est dans l'auto-stigmatisation, on va un peu manquer de ce courage là parce que on se pense faible, on se pense honteux, on se pense peu méritant, et finalement quand on est dans cette boucle, au bout d'un moment on va se dire je suis bel et bien faible, puisque avec tout le repli et la honte qu'ils ont vécu, ils ne sont pas allés demander de l'aide, donc ça s'est aggravé. Et on a une boucle comme ça où finalement la personne va de plus en plus croire à ces stéréotypes négatifs, puisque sans demander de l'aide, elle les renforce. Et c'est en ça que, d'ailleurs, ça fait depuis les années 90 que la semaine d'information de la santé mentale existe sur le plan national. C'est justement pour lutter contre cette stigmatisation qui, nous, entre guillemets, nous empêche d'avoir les personnes dans nos bureaux, nous empêche d'avoir les personnes qui viennent demander de l'aide à temps. Mmh. On essaye de faire en sorte à ce que cette honte n'existe plus, pour vulgariser, en vulgarisant, pardon, et en déstigmatisant. Et c'est tout le but de ces semaines-là, avec une impulsion qui était venue des institutions et beaucoup du milieu associatif et des partenaires, pour créer une semaine dans l'année où on puisse déstigmatiser, encore une fois, et essayer de faire en sorte à ce que les personnes n'aient plus honte de venir parler de leurs difficultés, de leurs problèmes de santé.
Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets, mais quelles sont les premières alertes ? Comment on sait justement qu'on doit consulter un professionnel ? Soit parce que ses modes de fonctionnement, de manière innée, sont peut-être différents des autres, ou parce qu'on traverse une période difficile. Quand est-ce qu'on s'alerte ?
Comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Karine, il n'est pas nécessaire d'être porteur d'un trouble pour consulter. D'ailleurs, c'est aussi une bonne façon de dire qu'il y a des personnes qui sont porteuses de troubles et qui ne consultent pas parce qu'elles vont bien, leur trouble est stabilisé et elles ne souffrent plus. Il faut consulter à partir du moment où on souffre. Et il y a aussi d'autres choses, quelque chose qui est un peu plus difficile, c'est que parfois la personne ne se rend pas compte qu'elle est rentrée dans un fonctionnement où elle se met à souffrir. Donc si on est proche de quelqu'un et on se pose des questions, il faut repérer les premiers signes de mauvaise santé mentale. En général, on va lister un repli sur soi, on repère également aussi des changements de l'humeur, une irritabilité, tendance à être plus impatient ou être plus agacé rapidement par des choses qui avant n'agaçaient pas la personne. Il faut aussi observer finalement comment la personne va s'alimenter. Est-ce qu'elle utilise encore la nourriture pour s'alimenter ou est-ce qu'il y a un trouble du comportement alimentaire qui apparaît? Donc est-ce que ça vient compenser quelque chose? Il faut se baser sur tout changement de comportement que la personne peut traverser. Mais attention, il faut que ce soit un changement qui dure un peu dans le temps. Si par exemple, ça nous arrive tous d'avoir un peu des mauvais moments ou des périodes difficiles où on va un peu moins prendre soin de soi, on va un peu broyer du noir et puis être agacé rapidement par nos collègues et tout ça. Si ça dure une semaine, on ne s'alerte pas, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais si on se rend compte que ces changements-là perdurent dans le temps, alors oui, il faut commencer à en parler à quelqu'un, à se questionner, parce que ce qu'on souhaite, c'est que ces changements-là ne s'inscrivent pas ensuite dans le fonctionnement pérenne de la personne et qu'il ne soit pas dans une souffrance qui petit à petit augmente.
Et la santé mentale, ça s'entretient ? Justement, on parlait du lien social. Comment faire justement pour rester en bonne santé mentale et pas basculer dans des troubles qui pourraient nous toucher ? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux auditeurs ? Et aux auditrices.
Je pense qu'on peut tous un peu répondre, mais est-ce qu'il faut, en tout cas, en tant que psychologue, nous, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que les humains sont justement des êtres sociaux. On est comme des animaux grégaires. On vit en groupe, on vit en société, on vit en famille, on vit en communauté, et le lien social est important pour aller bien. Qu'on soit plus ou moins introverti ou extraverti, même quelqu'un de très introverti a besoin de au moins un ami, de quelqu'un qui le reconnaisse. C'est très important de pouvoir se dire qu'au sein d'un cercle, même s'il est petit, on a une place. On est reconnu comme étant une personne faisant partie d'un groupe. C'est très important. Nous, on se rend bien compte que quand on soigne les gens, d'ailleurs, quand on est psychologue et qu'on a quelqu'un dans notre bureau, la première chose qu'on fait, c'est d'établir le lien avec cette personne. Avant de se poser les questions un petit peu... quelle thérapie je vais faire à cette personne, quelle méthode je vais utiliser, est-ce qu'on va faire de l'hypnose, on s'en fout de ça au début. On crée un lien avec la personne, on essaye d'établir ce qu'on appelle une relation thérapeutique. Parce que la base de notre métier, mais c'est pareil pour les psychiatres, c'est d'être en relation avec quelqu'un qui, à un moment, est en souffrance et en fait a besoin d'une main tendue. Et on est en lien. Donc, moi, je favorise énormément le fait d'avoir un groupe d'appartenance, de savoir qui on est en groupe, ça c'est très important. Après, il y a plein d'autres conseils également qui sont presque les mêmes que pour la santé somatique.
On fixe des objectifs. Quand on reçoit quelqu'un, on fixe un objectif, oui. Un objectif de rétablissement. Hein, c'est un concept aussi que vous aviez bien expliqué hier. Hein, c'est que la personne qui vient consulter pour une souffrance psychique, on va apprendre à la connaître et cette personne va apprendre à se connaître aussi, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour elle. Bon, sinon, il y a le truc bateau, l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, les addictions. Hein. Il y a un centre d'addictologie aussi. Il ne faut pas hésiter à consulter ou amener des personnes à consulter au sein du centre d'addictologie où il y a une équipe pluridisciplinaire, il y a les urgences, il y a des rendez-vous, il y a les médecins traitants. Le travail qui est fait au CHS, c'est de participer à la formation des gens, à la déstigmatisation aussi des lieux. Hein, il faudra inviter hein, les professionnels du CHS pour d'autres émissions, pour parler de tous les changements qui sont initiés, les portes qui s'ouvrent, l'isolement et la contention des malades hospitalisés sous contrainte, puisque l'hospitalisation sous contrainte, ça existe encore et c'est bien sûr encore nécessaire, mais pas dans les mêmes conditions qu'avant.
Est-ce qu'on a assez de professionnels, assez de structures en Nouvelle-Calédonie pour justement prendre en charge toutes ces personnes ?
Je ne vous cache pas qu'il y a un manque, mais bon, si on est attractif, on va arriver à y remédier, mais on a besoin d'aide des pouvoirs publics, on a besoin de, de, on a besoin vraiment d'aide concrète. Et puis là, il y a une souffrance, là, pour le coup, aussi des professionnels du soin qui sont quand même encore motivés. Mais...
Parce qu'on parlait, c'est vrai, de fermeture de lits avant ce qui s'est passé en 2024 du côté du CHS. Il y a eu mai 2024. On a beaucoup parlé aussi des questions de rupture de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation que l'on vit ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en souffrance parce qu'ils ne peuvent pas consulter un professionnel ? Est-ce qu'on peut le quantifier ?
Non, probablement pas. Mais justement, c'est vraiment le but de cette semaine de sensibilisation. Hein, c'est de faire connaître les le fonctionnement de, enfin, l'offre de soins, déstigmatiser encore. Et bon, on peut vous donner aussi des numéros de téléphone. Enfin, moi, je peux par exemple vous donner un numéro de téléphone qui n'est pas du tout connu. C'est l'antenne des urgences psychiatriques du Médipôle. Mais c'est vrai que bon, dans l'urgence absolue, on appelle le 15. Les gens aussi savent pas que le 15 pour les troubles psychiques. Il va y avoir une évaluation par le régulateur du centre 15 avec l'aide du psychiatre de garde. Il va y avoir une intervention qui va être déclenchée, adaptée à la situation. Sinon, en urgence, quand c'est pas l'urgence absolue, il y a l'antenne des urgences psychiatriques du Médipôle où on peut appeler en semaine et en journée. En journée le matin et en début d'après-midi au 20 84 72. C'est un numéro qu'on va peut-être essayer de... Il faudrait essayer qu'on communique davantage sur ce numéro de téléphone. On va avoir un conseil, peut-être un rendez-vous très rapidement. Sinon, il y a le centre médico-psychologique qui est le service public. Et puis, il y a les médecins traitants. Et on s'efforce au CHS... essayer de développer encore le réseau avec les médecins traitants. Bon, on sait que c'est pas à Nouméa qui a le plus de difficultés. C'est dans le Nord et dans les îles. Mmh. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas que Nouméa, Grand Nouméa. Donc, évidemment, il manque de ressources. Mais en tout cas, il y a des idées, il y a des grands changements qui sont en cours actuellement. Il y a des projets de recherche au niveau du CHS. Il y a plein de choses qui vont, on l'espère, concourir à déstigmatiser. Et puis, l'information qui continue, l'information qui a toujours été un des chevaux de bataille d'Ivocamp.
Alors justement, oui, en termes d'accompagnement des associations, votre place aujourd'hui, vous la sentez comment ? Elle est essentielle, il faut pouvoir peut-être accueillir plus de personnes. Comment vous voyez la suite justement au niveau de l'association ?
Alors l'association Hippocampe repose simplement sur le bénévolat. Donc on sait bien que dans les associations, les personnes actives, on en manque tout le temps. Donc on est un petit peu limité dans nos actions parce qu'on manque vraiment, vraiment de moyens. On en est à avoir de la peine à payer le loyer de la villa qu'on loue pour nos activités. Surtout qu'en plus, ce que j'ai expliqué de l'activité de l'association, on a des besoins particuliers. Ça doit être vraiment un lieu où les personnes se sentent bien et tout. Ça peut pas être une salle prêtée par une municipalité sur quelques heures et après ils s'en vont. On n'est pas dans la même problématique, je pense, que d'autres associations. On a des besoins particuliers. Il y a beaucoup de chantiers encore, mais bon, le partenariat qu'on a aussi avec le CHS, puisque en fait beaucoup d'institutions nous orientent des personnes vers nous. Donc il y a des gens de l'hôpital de jour, du CHS, il y a la CRHD, on a vu des fois des prescriptions. Donc on voudrait être entendu dans nos besoins aussi pour nous permettre une pérennité dans nos actions. Mmh. C'est-à-dire que les institutions entendent bien que ce qu'on fait, ce lien qui... une personne qui décide de venir participer à l'association Hippocampe, qui a besoin d'être aidée à un moment donné, on a eu le cas de personnes qui ont pu aller vers d'autres choses après. Elles étaient assez solides pour aller être bénévoles dans une autre association. On a même un membre de notre association qui est en ce moment en formation en métropole pour devenir père aidant. Au titre de son expérience psychiatrique, il passe un diplôme universitaire qu'il a obtenu là, et donc voilà, on peut aller loin, mais c'est justement en donnant cette confiance que les personnes puissent se saisir de ça pour être assez fort pour mener à bien leur projet, parce que Estelle est très humble. Mais là, cette année, elle a obtenu sa licence de physique-chimie à l'université parce que, justement, elle avait retrouvé ses marques. Donc, voilà ce à quoi on sert.
Et ça, des études comme ça, c'était inimaginable au moment du diagnostic, de se dire « je vais obtenir une licence en physique-chimie » ou c'était encore dans un coin de votre tête ?
Non, parce qu'en fait, là, lorsque j'avais été diagnostiquée pour la première fois, j'étais déjà en dernière année de licence de physique-chimie et j'ai dû interrompre. Pour des raisons de difficultés avec la maladie. Et ça fait 15 ans là, que j'ai repris, et peut-être qu'il a fallu ce temps-là pour que je remets bien les idées en place et que j'ai la force de passer et de refaire la dernière année qui a été aménagée du coup. Et du coup, je l'ai eu au mois de juin.
Eh bien, félicitations.
Merci.
Est-ce que ça tourne une page quelque part de se dire, ça y est, j'ai accompli quand même ma licence et la vie continue.
Oui, c'est vrai, il y a cette pensée-là maintenant, mais je reviens de loin quand même, et c'est toujours par avec humilité que c'est vrai que la maladie, je suis stabilisée, mais je pourrais peut-être demain ou après-demain rattraper ma crise, malgré que j'ai le traitement ou je suis bien soutenue. Ça, je ne sais pas, mais...
C'est toujours dans un coin de votre tête, c'est une
inquiétude. Oui, c'est vraiment une peur, parce que... maintenant, avec du recul, je connais mes limites. Du coup, dès que je commence à pencher vers les symptômes qui alertent, je me pose, je fais un travail sur moi. Parce que maintenant, je sais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Je fais attention.
Alors, on l'a dit, il y a des numéros de téléphone qu'on a donnés tout à l'heure, le 20 84 72, notamment pour les urgences au Medipôle quand on a un problème. On sait qu'il faut consulter, prendre soin de sa santé mentale, même quand tout va bien. Si on veut devenir bénévole et aider peut-être une association comme Hippocampe, comment ça se passe ? Comment d'ailleurs on devient bénévole ? C'est quoi le parcours de vie ? C'est quoi la motivation à l'origine ?
Alors, c'est très marrant que vous me posiez cette question-là, parce que beaucoup de nos bénévoles ont été des personnes proches, souvent parents, des personnes usagers psychiatriques. Et puis, dernièrement, ça s'ouvre à d'autres personnes. Justement, je vais lui faire un clin d'œil. J'ai une amie qui s'est proposée. Elle n'est pas du tout concernée par la maladie psychiatrique, et elle a adhéré à l'association, et par amitié pour moi, elle a dit, moi je vais animer un atelier de jeux de société tous les 15 jours. N'importe qui donc peut venir. Moi je trouve que c'est bien justement quand c'est ouvert à tout le monde, ça permet justement de regarder. On a eu aussi dans l'année une jeune étudiante en master en métropole, mais qui est originaire du Mont-d'Or, qui nous avait écrit en disant je vais faire un stage à l'ISA, là, le centre pour autisme au Mont-d'Or, est-ce que je peux venir faire quelque chose auprès de votre association ? Et on a eu la chance, pendant un mois, elle est venue faire des petits ateliers d'art-thérapie, et quel bonheur, quoi, parce que justement, plus les regards se multiplient, plus justement les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas l'expérience psychiatrique, patients ou proches, tous ceux qui ne connaissent pas, ça change complètement leur regard. J'ai vu de maintes fois des gens, travailleurs sociaux, quoi, qui venaient nous rencontrer à l'association et qui en sortaient, subjugués, parce que, justement, ils voyaient que c'était pas... Les images stigmatisantes que pose la société en général sur la maladie psychique. Donc, ils n'avaient pas des fous avec des entonnoirs sur la tête. enfin, je donne une image comme ça, triviale, mais voilà, ils voient des personnes sensées, elles sont en dehors de la crise, elles portent leurs difficultés qui leur sont propres les unes les autres, qui peuvent être différentes, mais à part ça, c'est tout, quoi.
Donc ça fait moins peur, parce qu'il y avait peut-être une peur de s'impliquer aussi en tant que bénévole dans ce type d'association pour des gens qui étaient complètement extérieurs et qui aujourd'hui viennent vers vous.
Oui.
Donc c'est que le travail fonctionne finalement de déstigmatisation.
On espère que ça fonctionne. Et moi j'aimerais rajouter pour vraiment souligner l'importance de l'existence d'Hippocampe et d'autres associations. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'en monter, j'imagine que ça peut toujours être utile. C'est que en psychiatrie, ce sont des... Estelle l'a bien dit, elle a mis plusieurs années, presque une dizaine d'années à se remettre de son trouble. Ce sont des maladies graves qui peuvent être parfois très handicapantes et où le cheminement est long. Ce sont aussi des maladies qui sont stigmatisées. Et depuis que l'humanité presque existe, il y a un phénomène de marginalisation en fait, des personnes qui sont atteintes par ces troubles-là. Et le travail associatif, souvent, quand Hélène parlait de rompre un petit peu cette solitude chez les gens qui le vivent, c'est parce qu'il y a une réelle solitude chez les personnes qui vivent ce genre de maladie. Là, on est presque un peu en dehors de la santé mentale, on est vraiment dans la personne porteuse du trouble. Il y a une grande solitude parce que ce sont des maladies qui sont encore incomprises et parce qu'elle est souvent source d'incompréhension. Il va y avoir aussi parfois des attentes familiales qui vont au bout d'un moment ne pas être vraiment remplies, et donc ça peut créer conflit. Et parfois même quand il n'y a pas conflit, la personne décide de partir de chez elle parce qu'il y a un sentiment d'inutilité et d'impuissance qui est là. Et on a beaucoup de personnes qui sont passées par ces phases-là d'isolement et de marginalisation et donc de précarisation. Et ce qu'on essaye vraiment fortement, c'est qu'il n'y ait plus ce cycle-là. Et les associations sont là pour justement que la personne retrouve une place qui soit sensée, qui fasse sens pour elle. Ou quand elle se lève chaque matin, elle se dit je vais aller avec des gens qui reconnaissent mon existence et qui en plus me donnent quelque chose à faire dans la journée qui est important pour moi et un endroit en plus où je me sens bien. Et parfois, pour retrouver le chemin de sa famille, on doit passer par ce stade-là, par cette association où il y a des gens qui nous ressemblent, des gens qui nous comprennent, qui vont pas nous juger. Et c'est plus qu'utile, ils sont carrément essentiels à notre travail. Nous, parce qu'au bout d'un moment, quand les patients sont remis ou qu'ils ont des plaintes qui ne sont plus forcément en lien avec notre travail, ils rentrent chez eux, mais souvent ils rentrent chez eux un peu seuls. Et quand il y a des associations comme ça qui existent, nous, on fait le relais, je ne sais pas combien de fois par jour, pour parler de cette association-là à nos patients. Et alors, c'est un cheminement aussi pour eux. J'imagine que quand on leur en parle, ils ne prennent pas la décision dans l'après-midi d'y aller. Il y a un réel cheminement. Est-ce que je vais tomber sur des gens qui vont me comprendre? Est-ce que ça va vraiment être utile? Et souvent, ce cheminement débouche sur une adhésion à cette association-là. Et on voit bien l'impact que ça a sur eux, sur leur sociabilisation, sur l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, mais aussi sur le courage ensuite qu'ils ont à réintégrer leur communauté et leur famille. Et donc, je soutiens totalement Hélène quand elle dit qu'on a toujours besoin de monde dans ces associations-là, parce que nous, en tant que professionnels de santé, on voit vraiment leur utilité.
Alors justement, c'est la semaine d'information. Si on veut retrouver le programme complet pour des gens qui voudraient se renseigner pour conclure cette émission, parce qu'il est déjà 12h40, concrètement, on peut retrouver le programme où, avec tous les événements ?
Sur la page Facebook du CHS, je pense qu'il a été relayé. Après, on peut faire rapidement un point, parce que je vois que Karine, elle a le petit papier.
Voilà, sur les temps forts principaux.
Oui, alors il y a aujourd'hui le stand d'information, le village de la santé mentale à l'UNC. La même chose est faite demain, de 9h à 15h dans le hall du Médipôle, pour qu'on puisse justement avoir accès aux gens qui vivent au Grand Nouméa et qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Un temps fort, c'est jeudi. De 14h à 21h, on propose une exposition artistique avec ambiance musicale, lecture de témoignages à l'Art Factory. Il va y avoir une exposition de toutes les œuvres qui sont faites par les personnes qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore la psychiatrie vraiment au sens large. Il y a des personnes qui n'ont jamais été hospitalisées mais qui participent à cette exposition. Les œuvres sont anonymes, mais en fait, nous, ce qu'on souhaite faire passer comme message ici est que l'art est un pont entre nous, et beaucoup de personnes, quand ils traversent des difficultés psychiques, vont utiliser l'art pour communiquer. Et donc on a une petite sélection de toutes ces œuvres qui ont été faites par des personnes qui ont utilisé l'art à un moment donné pour faire comme une investigation, soit pour communiquer sur ce qu'ils vivaient. Et ça va vraiment être très intéressant. Il faut vraiment venir. Je pense que ça va être un super moment. En plus, on a la chance d'être accueillis à l'Art Factory. Donc, on est vraiment très satisfait de ça. Et vendredi matin, il y a une vente au marché avec nos usagers qui vont tenir un stand et qui vont vendre ce qu'on peut produire aux ateliers thérapeutiques. Donc des petites plantes, des tissus colorés, je crois à des objets de poterie comme des tasses, ce genre de choses.
Et on invite tout le monde évidemment à se rendre sur place. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous ce midi pour ce magazine citoyen donc consacré à la santé mentale.
Merci.
Merci à vous.
Une interview que vous pourrez réécouter, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet rrb.nc. Il est midi 43, le Café Gourmand jusqu'à 13h. À 13h, ce sera le prochain point sur l'actualité.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.